Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui !
Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est encore bien content de vous retrouver ce mois-ci. Il fait froid, hein ? Ouh là là ! Bon, nous on a chaud, ça va. Aujourd'hui, on va encore vous présenter deux, trois petites choses. Aujourd'hui, on est avec Françoise, Anne, Aurélie et moi-même. Françoise qui va nous parler d'un essai, Aurélie d'un album jeunesse, Anne de musique. Bon, et moi, je vais vous parler d'un film d'animation. On va commencer par Aurélie. Vas-y Aurélie.
Merci Antonin. Donc aujourd'hui, je vais encore vous présenter un album jeunesse, mais cette fois-ci un album jeunesse d'Antonin Louchard. Donc Antonin Louchard fait partie de mes auteurs préférés. Ses histoires sont souvent absurdes, hilarantes, mais en même temps posent des questions existentielles. Et c'est le cas de celle-ci. L'album que je vais vous présenter s'intitule « Pourquoi les lapins ne portent pas de culottes ?» Et je pense que c'est une question que nous aurions tous déjà dû nous poser. En effet, pourquoi nous et pas eux ? Antonin Louchard aime insérer des citations connues dans ses albums. Celui-ci s'ouvre sur une question célèbre de Leibniz, quelque peu remaniée : pourquoi y a-t-il des culottes plutôt que rien ? La véritable citation étant : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Mais vous le savez tous, évidemment. Donc nous allons donc essayer de répondre à ces questions. C'est l'histoire, vous l'aurez compris, d'un lapin qui s'appelle Glumpsongrzou. Ça commence bien. Pour la facilité, nous l'appellerons Zou. Zou, comme les autres lapins, n'a pas inventé la poudre, et encore moins les frites ou la télé. Mais Zou est un lapin content, qui se satisfait de ce qu'il a, et passe son temps à manger des plantes et à gambader. Seulement, Zou est amoureux de Betty, une lapine qui a beaucoup de prétendants. Il cherche à l'impressionner par des petits cadeaux, comme des carottes, des petites histoires, il lui chante une chanson un peu bébête, et c'est déjà assez impressionnant pour un lapin. Mais rien de tout cela ne fonctionne. Il faut dire que les lapins n'ont pas de Porsche 911, ni d'appartement de luxe à offrir. C'est sexiste ? Un jour, ils trouvent une culotte. En réalité, c'est une salopette. Et ils l'enfilent. Betty ne voit plus que lui. Les autres lapins sont jaloux, et ils se mettent à voler des culottes à leur tour aux humains pour tenir la distance. Et tous les lapins finissent par porter la culotte. Oui, mais voilà. La convoitise entraîne la jalousie, les vols et la demande. Les lapins créent une banque pour monnayer et échanger des vêtements contre des trèfles et des carottes. Mais bon, ils ne peuvent toujours pas acheter de Porsche 911 avec des carottes. Voilà donc les lapins bien avancés. La société lapinesque est à présent menacée par des vols et des milices de culottes noires sont créées pour les empêcher. Mais ils font parfois du zèle et certains lapins innocents sont emprisonnés. En réaction, des groupes de culottes colorées, les culottes rouges, les culottes bleues, les culottes jaunes, à ne pas confondre avec un certain mouvement social actuel, etc. se forment pour se surveiller les uns les autres et la méfiance s'installe entre tous. Mais le pire, c'est que Betty plaque Zou pour un autre lapin en culotte. Cependant, ce à quoi n'avaient pas songé les lapins, qui sont très terre à terre, c'est que les culottes colorées dans les champs, ça fait certes un très beau landart vu du ciel, mais ça attire aussi l'œil des prédateurs voraces. Et voilà pourquoi les lapins ne portent plus de culottes et n'ont toujours pas acheté de Porsche 911. Et Zou dans tout ça ? Vous le saurez en lisant l'histoire, que vous pourrez retrouver à la médiathèque Vaillant et que je ne peux que vous conseiller de lire. Vous l'aurez donc compris, c'est une histoire très drôle, inspirée de certains faits de notre société et de notre histoire, et truffée de références qui font rire les petits et les grands. Les lapins ont-ils trouvé la recette du bonheur ? Françoise va justement vous en parler. Du bonheur, pas des lapins.
Merci Aurélie, et quelle transition ! Quel est l'idéal du bonheur ? Est-ce un état ? Un concept philosophique ? Et comment y accéder et rendre cet état constant ? Il semblerait qu'actuellement le bonheur se construirait, s'enseignerait et s'apprendrait. Telle est l'idée à laquelle la psychologie positive prétend conférer une légitimité scientifique. En tout cas, c'est un des propos de cet essai qui nous interroge sur l'industrie du bonheur qui serait prête à contrôler nos vies. Je veux parler de Happycracy, de Edgar Cabana et Eva Illouz, docteur en psychologie, sociologue, Enseignant-chercheur, cet essai parle de la marchandisation des émotions, ce que Eva Illouz nomme le capitalisme affectif. L'idéal du bonheur en tant que tel est un vieil idéal dans la culture occidentale depuis Aristote, puisque le but de la vie, c'est de vivre la vie bonne. Jusque dans les années 70-80, le bonheur est une affaire de philosophie, de morale, voire de spiritualité, ses vertus étant largement partagées. Puis il y a une rupture à la fin du XXe. Désormais, il s'agira non plus d'accéder au bonheur en cultivant ses vertus, mais de maximiser son potentiel positif. C'est l'avènement de la psychologie dite positive dans les années 90. Débutent alors des études expérimentales qui consistent à faire émerger les traits les plus positifs en chaque individu, afin de les activer. C'est Martin Seligman, psychologue américain, qui est en quelque sorte le père de cette nouvelle discipline, la psychologie dite positive. En 1998, il affirme dans une étude que la psychanalyse et la psychologie auraient fait fausse route, en se focalisant sur les pathologies, la souffrance, sur ce qu'il y a de plus négatif en chaque homme. Pour cela, il va falloir apprendre à se déprogrammer, c'est-à-dire rompre avec les habitudes de pensée négative pour développer des pensées positives, afin d'atteindre le bonheur. Aujourd'hui, en Inde, il y a même des écoles, des classes du bonheur. On apprend les enfants de 7 ans à manifester de la reconnaissance vis-à-vis de leurs parents, de leurs professeurs et de la nation. C'est alors que certains économistes préconisent de nouveaux marqueurs pour évaluer les nations, tout en gardant à l'esprit la philosophie utilitariste du 19e, qui préconisait que le but d'une bonne politique était l'augmentation du plaisir général de la population. Les Nations Unies ont mis en place une autre méthode d'évaluation pour classer les nations avec une grille de lecture bien différente. Eva Illouz, qui enseigne à l'Université de Jérusalem, s'étonne qu'Israël se trouve en bonne place dans la pyramide des pays du bonheur, avant d'autres pays plus pacifiques, comme l'Allemagne ou la France. En 2008, le Bhoutan a mis en pratique les phénomènes étudiés dans ce livre, en évaluant le bonheur national brut, au détriment, par exemple, de la redistribution des richesses ou du PNB. L'idée de la psychologie positive a été adoptée par l'armée américaine également, pour le bon moral de ses soldats. Et Coca-Cola a mis en place les programmes du bonheur. Voyez les dernières publicités de la marque. La psychologie positive, en tant que telle, n'a rien de dangereux, hormis lorsqu'elle est appliquée au niveau des nations. Les auteurs citent en exemple, d'une part Richard Liard, de London School, qui avance l'argument selon lequel l'ennemi commun créerait du bonheur puisqu'il créerait une solidarité. Créer de la solidarité crée du bonheur. Et d'autre part, que l'inégalité, selon d'autres économistes, peut être un facteur du bonheur, car elle nous donne envie de nous battre dans l'espoir d'une vie meilleure. En d'autres termes, cette conception du bonheur ne permet-elle pas de contourner les questions en justifiant des politiques discutables ? Enfin, c'est certain, la philosophie qui aide le libéralisme et le néolibéralisme est celle-ci. Chacun est seul dans sa vie, responsable et coupable, notamment de ses échecs. Chacun est réduit à un produit perfectible, avec un potentiel machine économique à maximiser. L'idée de la surresponsabilisation de l'individu est le fait que l'on ne comprend pas toujours, à un moment donné, le rapport entre la souffrance et les institutions met à mal cette approche d'un nouveau bonheur. Enfin, pour finir, je vais vous laisser méditer avec cet extrait de Huxley, Le meilleur de monde, paru en 1931. C'est là qu'est le secret du bonheur. Aimer ce qu'on est obligé de faire, tel est le but de tout conditionnement.
Eh bien, rebonjour à tous. Eh bien, ça pose question sur le bonheur. Bon, ok, j'y vais. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler de Parvana, un film d'animation jeunesse de l'Irlandaise Nora Twomey. Ce long métrage est directement inspiré de l'ouvrage jeunesse éponyme de Deborah Ellis, écrit en 2001, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les rayons de la médiathèque Vaillant. Nous suivons donc Parvana, une jeune afghane de Kaboul en 2001. Intelligente et bouillonnante de curiosité, à travers son grand regard vert, nous découvrons et allons subir le quotidien de cette petite fille de 11 ans sous le régime des talibans et du Mollah Omar. Les quelques premières minutes du film nous présentent l'héroïne et sa famille, vivant tant bien que mal faisant contre mauvaise fortune bon cœur dans cet environnement clairement tendu. Tout bascule rapidement quand, pour une insignifiante histoire d'ego, leur père se voit emprisonné arbitrairement. Mais sans mari, sans chef de foyer, interdiction de sortir en public pour les femmes. Impossible de travailler, de trouver de quoi se nourrir. C'est alors que Parvana décide de se couper les cheveux et de se travestir en garçon pour venir en aide à sa famille. Si ce résumé nous brosse un début d'histoire plombante, vous découvrirez un film beaucoup plus complexe et léger grâce à un ressort scénaristique très bien pensé. En effet, l'élément remarquable du film tient dans le fait d'avoir mêlé intimement l'histoire tragique de cette famille avec un conte traditionnel, la légende de Suleyman, qui s'égrène en parallèle des pérégrinations de Parvana. Loin de caricaturer ou de vider de sens la dureté du sujet, cette dimension onirique crée au contraire une sorte de porte de sortie pour cette jeune fille comme pour le téléspectateur. Pour le spectateur, c'est mieux. C'est comme si l'aventure du héros de ce conte, affrontant mille périls, s'incarnait dans le propre parcours de la jeune fille. Cela relativise les horreurs et les contraintes du monde réel, de ce monde violent d'adultes. On s'attend, avec elle, comme dans les contes, à ce que, quelles que soient les épreuves, l'histoire se finisse bien. Cette dichotomie narrative, d'une certaine façon, allège l'histoire, mais la mystifie également, nous laissant haletant face aux épreuves de ces deux héros inextricables. Côté graphisme, l'esthétique simple et claire de l'animation nous transporte, sans nous perdre. C'est un petit bijou d'animation, un vrai plaisir pour les yeux, rien à redire. Voilà donc un bien beau film à découvrir en famille qui nous donne à réfléchir, une bonne piqûre de rappel quant à l'importance de la mémoire et de la culture. Et le tout sans nous accabler ni nous transir de tristesse. Bravo! Et pour conclure, je vous passe la bande-annonce du film.
Dans ma jeunesse, Parvana, j'ai connu la paix qui régnait dans cette ville. Tout change toujours. Les histoires sont là pour nous le rappeler. Parvana! Est-ce que tu m'as écouté?
Oui, papa.
Elle devrait être à la maison.
Et elle devrait se couvrir convenablement.
Et toi, tu devrais arrêter de la regarder.
Je pourrais te faire exécuter.
J'ai l'impression que les affaires vont reprendre.
S'il y a des femmes à l'intérieur, couvrez-vous immédiatement.
Où est-ce que vous l'emmenez?
En prison.
Tout va s'arranger. Ma famille et moi sommes dans une situation désespérée.
Désolé, reviens plus tard.
Hé, la fille, je t'ai demandé de t'arrêter!
Tu es Parvana?
Josia?
Quand on est un garçon, on peut aller où on veut.
Je vais retrouver Baba.
Je t'ai dit non.
J'y vais. Rien ne m'en empêchera.
Et si je te mettais tout ça en histoire?
C'est une histoire qui finit bien ou qui finit mal?
Écoute et tu verras.
Et voilà, eh bien, je vous conseille de le regarder. Vous le retrouverez à la médiathèque Césaire à Mathieu Vaillant, donc Parvana de Nora Thomé. Eh bien, Anne, c'est de la musique, mais alors ça va être quoi? De la musique pop, électro, du folk?
Eh bien, vous allez voir. Alors, bonjour déjà. Et puis, imaginez, vous êtes bibliothécaire, vous vous occupez de la musique, tout ça, et votre collègue qui s'occupe aussi de la musique vous dit... Tiens, Emiliano Torini, c'est super bien. Et du coup, vous vous dites un mercredi matin de février et que vous allez écouter le disque que vous avez commandé il y a déjà quelques temps et que vous n'aviez jamais pris le temps d'écouter. La pochette du disque est noire avec écrit dessus « The Colorist » et « Emiliano Torini ».
Friends tell me it's spring. My windows show the same. Without you here, the seasons pass me by. I know we were not known. loved like me and you. All the same, I miss you. Today has been okay, but today has been...
Emiliana Torrini est une chanteuse islandaise, car il n'y a pas que Björk dans la vie. Elle a plusieurs albums à son actif sur lesquels elle révèle cette voix unique et reconnaissable, ainsi qu'un goût pour l'électro, pop folk. Oui, je décrète que l'électro pop folk existe depuis Emiliana Torrini. C'est comme ça. Et elle sait décliner cette musique sur chacun de ses albums sans jamais friser le trop-plein. The Colorist, quant à lui, est un collectif orchestre de musique de chambre fondé par deux Belges, dont l'activité consiste principalement à contacter des artistes pour leur proposer de réarranger leurs chansons pour cet orchestre et donc de leur donner, aux chansons, une nouvelle couleur, avec en plus, comme si cela ne suffisait pas, des concerts pour montrer aux gens ce que donne cette rencontre. Et alors, le résultat de cette rencontre entre Emiliana Torrini et The Colorist, face aux gens, est là, sur ce disque. Même si j'ai sauté quelques étapes entre-temps. On peut entendre tout doucement la rumeur du public et les applaudissements, ce qui peut surprendre puisque chaque morceau semble avoir été enregistré en studio. C'est très précis. On pourrait dire que tout est au bon endroit, au bon moment, chaque son dans le moindre détail. Pas besoin de connaître les artistes ici présents pour aimer ce disque. Pas besoin de connaître la musique classique pour aimer ce disque, car ça n'est pas que ça. Pas besoin d'aimer l'électro-pop-folk également, car ça n'est pas que ça non plus. Pas besoin de poudre aux yeux pour que cela fonctionne, puisque chaque chose est à sa place. Et pas besoin d'attendre quoi que ce soit, d'ailleurs, vous avez juste besoin d'un matin de février pour constater comme moi que le coup de cœur a opéré. La chanson, mais si vous voulez en entendre un peu plus, le CD Emiliana Torrini and the Colorist est disponible à la médiathèque Vaillant. Vous pouvez venir l'écouter.
Bah voilà, ça y est, on a terminé.
On a fini ?
Ouais.
Bon, bah on a fini. Bon, bah au revoir.
Au revoir et on se retrouve fidèlement le mois prochain.
En mars.
En mars. Au revoir tout le monde.
Au revoir.